Vous écoutez On lit pour vous.
Le rattrapage culturel de la ville de Laval. Un texte de Catherine Lalonde paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. Depuis 10 ans, Laval est dans une accélération culturelle à la vitesse grand V. L'ouverture cette année de l'espace citoyen des Confluents, avec sa bibliothèque et sa salle de spectacle, et l'annonce qu'une part du financement de la construction du nouveau centre culturel au métro Montmorency est assurée, sont signes que Laval est à l'étape du béton et de la construction. La troisième ville du Québec change son visage culturel. Laval partait de loin. On a longtemps été reconnu comme ville dortoir. On veut devenir une ville où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Ça passe aussi par la culture, résume Philippe Derry, chef des affaires publiques. Laval cherche sa nouvelle identité, a formulé autrement une artiste du coin. Il y a le passé banlieue, bungalow, piscine, le présent avec l'immigration, le besoin de francisation, une pauvreté qu'on ne connaît souvent pas, la proximité de Montréal. La culture est un bon moyen de se distinguer. Emmanuel Waters, responsable de la stratégie culturelle, arrivé juste avant la mise en tutelle de la ville en 2013, se rappelle le tournant culturel tracé par l'administration de Marc Demers, 2013-2021, suivi par celle de Stéphane Boyer, depuis 2021. À l'époque, il n'y avait pas de Conseil de la culture, pas d'entente entre la ville et le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ. Tous ces outils que toutes les régions du Québec avaient saisis n'existaient pas ici. Laval a été ainsi la dernière région à développer ce partenariat 50-50 avec le CALQ en 2015, qui ajoutait alors 300 000 $ à la culture. Maintenant, elle en apporte le double. Le changement date de 2014. En 10 ans, il y a eu une évolution spectaculaire, confirme Valérie Laforêt, directrice adjointe au service culture, loisirs, sport et développement social. Ce n'est pas une action seulement municipale, ça vient aussi des acteurs culturels qui sont très, très engagés. Le regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois, ROCAL, est un des grands partenaires. Il fallait d'abord savoir d'où la ville partait. En 2017, le diagnostic culturel a été posé. Le déficit est si grand, admet en soupirant Emmanuel Waters. Encore actuellement, il y a juste une salle d'exposition pour 440 000 habitants. Du côté des spectacles, je ne sais plus le nombre de sièges par habitant, mais je sais que Laval est la dernière de la liste des régions. Il y a de la place pour développer. Le constat du portrait national des bibliothèques publiques québécoises pour 2022 est similaire. Laval est en 13e position sur 17 régions. La ville ne cache pas son ambition. Le prochain centre culturel Montmorency abritera une bibliothèque centrale, en plus de studios, de résidences d'artistes et d'une galerie. Et le plan de développement des bibliothèques vise à faire passer le réseau de 9 à 15 bibliothèques de quartier d'ici 2036. Créé dans le froid et l'encens. Aujourd'hui, le lieu de création principal est le Centre culturel arménien. Le pavillon Laurier est un second repère. Mais c'est l'ancien couvent, charmant, essentiel, et dont les locaux ne sont absolument pas appropriés, qui abrite le plus de gestion et de production d'œuvres, comme l'indique Geneviève Bergeron-Collin de « Lis avec moi », qui fait la promotion du livre et de la lecture. « Je n'ai pas de chauffage dans mon bureau », souligne la directrice. « Quand il y a un enterrement dans la chapelle, l'encens monte jusqu'ici. » L'été, on ne peut pas faire fonctionner l'air climatisé et le micro-ondes en même temps. Il y a des questions de sécurité si on laisse du matériel électronique. il a fallu changer un bureau de place parce que c'était impossible de travailler quand des comédiens répétaient à côté. Ça parlait trop fort. Le centre arménien est nécessaire en attendant les nouveaux lieux. C'est le nid de la galerie verticale, du recal, de la rencontre théâtre à dos, du petit monde, du réseau artiste, de Zeugma danse, du théâtre incliné et du théâtre bluff. Les quatre derniers y tiennent leur répétition, avec le théâtre Fêlé, Harpagon Théâtre et le théâtre Tombé du ciel. Faire beaucoup en même temps. En 2019 sont venus le plan de développement culturel et ses étapes. C'est le plan de toute la communauté, explique Madame Laforêt. Il y a des actions portées par la ville, par Tourisme Laval, la Chambre de commerce, le Centre de services scolaires. Des promoteurs immobiliers se sont aussi assis à la table. En 2021, la ville fait sa première politique d'art public. On n'allait pas se contenter de 1% du coût des projets pour l'intégration d'une œuvre d'art à l'architecture. On a augmenté à 1,75%, indique Madame Laforêt. En 2023, une nouvelle enveloppe d'1 million vient développer le programme d'art urbain et numérique dans les quartiers pour que les citoyens puissent voir la culture dans leur parcours quotidien. S'ajoutent des actions en patrimoine et en archéologie. Artistes en infrastructure. Le Devoir a discuté avec des organismes et des artistes de Laval. Tous apprécient le mouvement et des questions surgissent. Les artistes autonomes qui ne sont pas joints au Rocal se sentent relégués dans un coin. Ils craignent de ne pas avoir accès aux espaces de création et de construction communs. Ça avance rapidement et ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. On n'a ni les ressources ni les expertises pour suivre ce rythme, analyse Charlotte Panaccio-Letendre de la Galerie Verticale. J'ai dû développer des expertises en infrastructure, car la galerie aura enfin pignon sur rue au futur centre Montmorency. Pendant ce temps, je ne travaille pas les futures expositions. L'inquiétude est vive aussi pour le financement à long terme, surtout celui des ressources humaines qui vont animer ces nouveaux lieux. Entre 2014 et 2022, rappellent Mesdames Waters et Laforêt, le budget du module culture est passé de 20 millions de dollars à 40 millions. Les deux femmes espèrent que les deniers suivront. Autre souci, remplir les futures salles de spectacle. Les artistes sentent qu'il y aura un gros travail à faire pour construire l'appétit et les habitudes du public. Défi de rattrapage. Le rattrapage crée une pression, un sentiment d'urgence, admet Madame Laforêt. Il y a des décisions toutes les semaines qui se prennent. C'est réjouissant, c'est exigeant. C'est une difficulté de garder tout le monde mobilisé. Jusqu'à maintenant, les gens sont tellement engagés. Ils sont très rares, les projets multidisciplinaires comme le Centre culturel de Montmorency, rappelle la directrice de Vertical. Même dans l'ensemble du Canada, on ne sera pas dans des espaces spécialisés à chaque art. Ça devrait créer des occasions de maillage et de création interdisciplinaire. J'ai hâte de voir le chantier, conclut Madame Panaccio-Letendre. Et de voir l'inauguration en 2027-2028 et l'exposition qu'on va y faire. C'était Le rattrapage culturel de la ville de Laval, un texte de Catherine Lalonde paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.
Le bonheur est dans le champ. Un texte de Vanessa Fontaine, paru dans l'édition de Hiver 2023-2024 du magazine Châtelaine. Sous la douche? Certainement. Dans l'auto? Encore mieux, tant que les vitres sont relevées. Mais pour bien des gens, pousser la note en public est impensable. Or, la science en a fait maintes fois la preuve. Chanter en chœur rend heureux. Chaque semaine, depuis près de 40 ans, Jacinthe Vaillancourt attend le vendredi soir avec grande impatience. Elle laisse derrière elle ses soucis du quotidien et se rend à l'église Saint-François-Xavier, à Québec, où elle rejoint une quinzaine de personnes aussi passionnées qu'elle par le chant. Ensemble, elle chante des arias de Handel, des lieds de Beethoven, des oratorios de Mozart et des classiques de Noël. Depuis l'université, c'est pour moi une façon de m'évader. Mes études étaient exigeantes. J'arrivais souvent aux répétitions épuisée. Et quand j'en repartais, ma lassitude s'était complètement envolée, raconte-t-elle. La soprano de 56 ans chante aussi parce que ça lui réchauffe l'âme et lui permet d'exprimer sa foi. Et ce qu'elle accomplit avec les autres membres de la chorale liturgique de la paroisse la remplit de fierté. Ça nous nourrit, mais nous le faisons également pour les autres. Nous voulons imprégner l'assemblée de fidèles de joie, de beauté. S'exercer en solo n'est jamais aussi riche qu'avec le groupe. C'est plus grand que soi, soutient-elle. Jacinthe est loin d'être seule à vibrer pour le chant en groupe. En fait, plus de 510 000 Québécois, réunis au sein de quelque 3 000 chœurs, vivent la même passion, selon un recensement effectué par l'Alliance chorale du Québec en 2016. Et cette popularité ne date pas d'hier. On chante depuis longtemps. Au Canada, le chant choral a connu ses années de gloire juste avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, au Québec, paraissent les cahiers de la bonne chanson distribués dans les écoles de la province. Ces cahiers avaient pour but de contrer les industries culturelles américaines et d'assurer que la jeunesse catholique avait accès à de la bonne culture, explique l'historien et musicien Pierre Lavoie. Ce phénomène culturel a profondément influencé la pratique du chant choral. Il a eu des répercussions directes sur les décennies qui ont suivi. Mais on poussait la note en groupe bien avant au Québec. Dès le début du 17e siècle, en Nouvelle-France, les gens chantaient à la claire fontaine, autour du feu de la Saint-Jean-Baptiste, dit la musicologue Louise Courville, directrice musicale de l'Ensemble Nouvelle-France à Québec. Se sentir bien. On chante donc depuis belle lurette. Et c'est sans doute parce que cela nous apporte des bienfaits. Diminution de la tension artérielle, ralentissement du rythme cardiaque, production d'endorphines qui contribue à soulager la douleur, et baisse du taux de cortisol, la redoutable hormone du stress. Le chant choral a des effets bénéfiques importants, principalement sur l'humeur et les émotions. Il nous fait oublier nos tracas. Il crée du plaisir. Cela a été démontré de manière récurrente, affirme Nathalie Gosselin, chercheuse au Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, le BRAMS. Les travaux de la neuropsychologue, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, portent surtout sur les effets de la musique sur l'humeur, le stress et la santé. Les chercheurs du BRAMS ont ainsi découvert que les respirations profondes exigées par le chant ont également un effet calmant. Et ces effets ne sont pas réservés qu'aux choristes. Ils se font ressentir chaque fois qu'on entonne un air en groupe, que ce soit en famille ou entre amis, au réveillon, à l'église ou autour d'un feu de camp. Jacinthe Vaillancourt, choriste dans ses temps libres et physiothérapeute de profession, le confirme. Chanter lui apporte des bénéfices physiques. Certains se réservent du temps pour faire de la randonnée. Pour moi, la chorale représente un bloc d'entraînement. C'est respiratoire, ça demande une certaine endurance, dit-elle. Roxane Croteau, elle, oublie tout quand elle chante. Directrice de l'Alliance chorale du Québec et chef du chœur Sainte-Dorothée à Laval, elle atteint un tel degré de concentration qu'elle ne voit plus le temps passer. Nos pratiques durent 2 heures et demie et on ne regarde jamais notre montre. Quand vient la pause, je suis toujours surprise, relate la quadragénaire aux jolies boucles. Cette absorption totale dans une tâche, jusqu'à en perdre la notion du temps, porte un nom en psychologie, le flow. Cet état, que certains appellent la zone, a d'abord été identifié par le psychologue hongro-américain Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow est décrit comme l'expérience optimale et il a un effet considérable sur le bonheur, la performance, la créativité et l'estime de soi. Au sein d'une chorale, on a l'impression d'être connecté aux autres. Un sentiment salutaire, selon Frank Russo, directeur du laboratoire SMART, Science of Music, Auditory Research and Technology, associé à l'Université métropolitaine de Toronto. C'est le fait le plus important qui ressort de la littérature scientifique. Les gens se sentent moins seuls lorsqu'ils chantent ensemble, résume le professeur de psychologie. Les membres d'un chœur qui reprennent un air à l'unisson sécrètent de l'oxytocine, hormone de l'attachement social, aussi appelée hormone de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que les gens en produisent des niveaux plus élevés quand ils chantent en groupe, mais pas en solo, fait remarquer Frank Russo. Quand on chante en groupe, il se crée une synergie. C'est vibratoire. Lorsque l'harmonie est belle, le ciel s'ouvre. Selon lui, c'est probablement en partie parce que le chant est l'une des seules activités que nous pouvons faire en parfaite synchronie. Nous ne pouvons pas tous parler en même temps, mais chanter, oui. Lorsque nous vocalisons, nous utilisons des centaines de muscles, du diaphragme aux muscles faciaux, en passant par le larynx, et tout le monde doit être coordonné. La synchronicité exigé est exceptionnel. Les gens se fondent aux autres. Ils deviennent une sorte de super-organisme, dit-il. Recherche d'harmonie. Cette connexion est très précieuse pour Roxane Croteau. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui lui ont le plus manqué pendant les longs mois de confinement qu'a entraîné la pandémie. Nous étions toujours les derniers à profiter d'assouplissements sanitaires, déplore la directrice musicale. La chorale est la seule activité sociale de plusieurs de nos membres. Certains se sont mis à déprimer à la maison. C'est que chanter en chœur stimule aussi la sécrétion de 2 puissants neurotransmetteurs, la sérotonine et la dopamine. La première aide à atténuer la dépression, tandis que la dopamine est liée au bien-être. Dans le cerveau, le plaisir, qu'il soit suscité par la consommation de chocolat ou de drogue, ou par des ébats sexuels, est lié à certaines zones. Le chant choral les active, explique la neuropsychologue Nathalie Gosselin. Roxane Croteau connaît bien cette sensation d'euphorie. Quand on atteint la bonne note ou qu'un passage est particulièrement réussi, le poil me dresse sur les bras. J'en ai des frissons. C'est physique, soutient-elle. Louise Courville renchérit. Quand on chante en groupe, il se crée une synergie. C'est vibratoire. Lorsque l'harmonie est belle, le ciel s'ouvre. De quoi donner envie d'entonner un petit air, non? Et si on n'a aucune connaissance musicale, pas de problème, soutient Roxane Croteau. Tout s'apprend. Les trois quarts des membres de mon cœur ne lisent pas la musique. Ce n'est pas grave. On découvre vite qu'on peut faire des choses fabuleuses dont on ne se serait jamais cru capable. Tout le monde peut chanter. C'était « Le bonheur est dans le chant », un texte de Vanessa Fontaine paru dans l'édition de l'hiver 2023-2024 du magazine Châtelaine.
La disparition des Lucioles. Un texte de Mathieu Bellil, paru le 8 février 2024 dans la presse. Au creux de l'hiver, vers la fin de janvier, c'est immanquable, chaque année, je souffre du manque de lumière. Je sens la fatigue m'envahir. J'ai envie de manger du gras et du sucre, envie de paresser, de dormir. Mon cerveau ralenti se ramollit, cède au spleen et à la mélancolie. C'est alors que je sors le fouet, comme on dit, et me remets en mouvement. Je me précipite sur la patinoire de quartier où je tourne en rond jusqu'à m'étourdir. Je frappe sur des rondelles de toutes mes forces, quitte à les perdre dans les bancs de neige quand elles passent comme des flèches au-dessus des bandes. Et je me mets au ski de fond, que je pratique sur les belles pistes du parc Frédéric Bach, un joyau serti au cœur de l'île, véritable réserve d'horizon, où je peux contempler au loin les gratte-ciels du centre-ville, dont la ligne prolonge le Mont-Royal. J'aime skier le soir, après le travail, seul dans la pénombre. Je me laisse guider par les lueurs de la ville qui plane au-dessus de moi. J'ai le sentiment que la neige a gardé en mémoire un peu de la lumière du jour, que les flocons luisent dans les ténèbres et clignotent à chacune de mes enjambées, comme des petites lucioles par une belle nuit d'été. Les soirs d'hiver, à l'heure de dormir, je plonge dans les bandes dessinées de mon enfance. Les traités de philosophie, les livres d'histoire, les romans aux intrigues compliquées attendront. Je suis trop fatigué. Je préfère le monde merveilleux d'Hergé. J'aime les lignes claires du dessinateur. J'aime la simplicité de son univers, avec ses bons et ses méchants, ses fins heureuses, où le bien triomphe toujours du mal. J'aime que Tintin soit toujours le même, pris entre deux âges, qu'on ne sache pas ni d'où il vient ni où il va. Il y a dans ce vaste monde qui relie la Terre à la Lune et aux étoiles mystérieuses une étonnante clarté, une absence d'incertitude, une prévisibilité parfaite qui me console un peu de la vie folle et haletante que nous sommes si nombreux à mener. Je l'ai déjà écrit quelque part, mais je veux le rappeler. Dans l'univers d'Hergé, la noirceur n'existe pas, ou si peu. Même quand Tintin est prisonnier d'un sombre cachot, qu'il pénètre au fond d'un tombeau égyptien, qu'il s'avance sur la face cachée de la lune ou dans les tunnels de contrebandiers, il fait toujours clair. Dans le temple du soleil, quand il tombe dans une chute d'eau et découvre derrière elle la voie qui doit le conduire dans le repaire des Incas, les pierres de la grotte brillent d'une étrange lueur, comme si Hergé avait choisi de faire jaillir la lumière du sein même des ténèbres. Un peu plus, et on croirait que la lumière sort de Tintin lui-même, de ses yeux sans prunelles, qu'il éclaire à mesure de son avancée, avec la certitude de trouver ce qu'il cherche comme Perceval lancé dans la quête du Graal. En retrouvant Tintin par les soirs d'hiver, il me semble qu'un peu de sa lumière rejaillit sur moi, que je retrouve avec lui l'innocence de l'enfant que j'ai été. Soudain, le temps s'arrête. Je ne vieillis plus, je rajeunis. Je redeviens intrépide et joyeux. Je n'ai plus mal ni aux genoux ni au dos. Je goûte à la magie de l'instant. Je disais à ma blonde récemment, le temps file trop vite, ça fait presque peur. Les mois et les saisons passent, les filles grandissent. J'en suis déjà aux deux tiers de ma carrière. La retraite n'est pas encore là, mais elle pointe gentiment le bout de son nez, assez pour me rappeler qu'il y aura un jour une fin. Quand je devrais donner mon dernier cours, parler pour la dernière fois à mes étudiants de mon amour des livres et de la littérature, je sais que je vais pleurer. C'est étrange, je suis nostalgique par anticipation. La nostalgie a mauvaise presse. Tout le monde s'en défend, comme si c'était une tare, qu'il fallait tout le temps être content, célébrer le monde qui vient, prendre le parti du progrès. Et pourtant, c'est l'évidence. Les avancées engendrent aussi des reculs. Il suffit de regarder ce qui se passe du côté du climat. Avec des hivers aussi doux, les bancs de neige s'étiolent, la glace des patinoires fond, comme les glaciers du Grand Nord. Les pistes de ski de fond durcissent au fil des gels et dégels et deviennent inamicales. Les hivers ne sont plus ce qu'ils étaient. Se pourrait-il qu'un jour, le fameux « Ah, comme la neige a neigé » de Nelly Gunn appartienne au passé? Dans un texte magnifique, paru au début des années 1970, le cinéaste Pier Paolo Pasolini s'inquiète de l'avancée des villes et des progrès de l'urbanisation dans son pays. Les lucioles, qui ont besoin de forêts et de lieux humides, sont en train de disparaître de l'Italie. Pasolini voit dans cette disparition qui a inspiré à Sébastien Pilote un très beau film, à qui je dois le titre de cette chronique, la métaphore d'un monde qui s'en va, d'une mémoire qui disparaît sans faire de bruit. Et je me dis parfois, en regardant la neige fondre sous la pluie froide de janvier, que nos lucioles à nous, les fragiles flocons qui tombent du ciel comme des parcelles de lumière appartiendront peut-être elles aussi un jour au passé. D'ici là, je continue de skier et de chercher mon chemin dans la nuit. Je savoure l'instant et je retrouve Tintin au Tibet et son gentil Yéti dans la blancheur immaculée des neiges éternelles. C'était « La disparition des Lucioles », un texte de Mathieu Bellil paru le 8 février 2024 dans La Presse.